Il est 7h.
Aux citoyens israéliens, je dis, vous ne pouvez pas faire la loi. Vous ne pouvez pas prendre un simple citoyen arabe et le lyncher.
Un homme présenté comme arabe lynché hier près de Tel Aviv, Israël en proie à des affrontements dans des villes judéo-arabes. Benjamin Netanyahou appelle au calme. Ils se sont réinventés ces derniers mois. Relais colis, vente directe, une diversification qui permet aux agriculteurs d'envisager plus sereinement les fins de mois. Notre dossier dans un instant. Dans ce journal aussi, un village toujours calfeutré et la chasse à l'homme qui se poursuit dans les Cévennes. Et un trophée toujours en ligne de mire, le PSG qualifié pour la finale de la Coupe de France. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et on va prendre des nouvelles de la croissance, elles sont bonnes. Bruxelles prévoit même une meilleure performance que le gouvernement lui-même.
Le regard international, Vincent Hervouet et l'édito sport de Virginie Fulpin.
Emeric Laporte va disputer l'Euro avec l'Espagne après sa naturalisation. Ça ne fait pas du footballeur un traître à la nation.
Avant 7h30, on retrouve bien sûr Stéphane Bern, c'est notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est une image qui résume à elle seule la tension extrême au Proche-Orient. Nous sommes en Israël, à Bat Yam, une ville au sud de Tel Aviv, où hier soir, un automobiliste a été sorti de force de son véhicule et roué de coups. L'homme, inconscient, a été laissé au sol par ses agresseurs, des militants d'extrême droite qui ont présenté leurs victimes comme étant arabes.
Bonjour Gwendoline de Bono.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël, où se multiplient ces dernières heures les affrontements entre juifs et arabes.
Oui, chaque soir, dans ces villes mixtes du nord d'Israël, des émeutes éclatent. Je me trouvais hier soir à Saint-Jean-d'Acre. Des jeunes arabes se sont barricadés près d'une mosquée pendant des heures. Ils ont enflammé des pneus, lancé des feux d'artifice sur les policiers. Un habitant arabe a reçu un coup de téléphone de son frère bloqué dans un supermarché qui était lui en train d'être attaqué par un groupe de jeunes juifs. La veille, dans cette ville, l'un des restaurants les plus iconiques du pays a été totalement brûlé car il appartient à un juif. Ce qu'il se passe dans ces villes où vivent juifs et arabes israéliens est inédit. Aucun habitant ne se souvient d'un précédent. Les tensions à Jérusalem puis l'offensive à Gaza ont cristallisé une longue colère chez les Palestiniens de citoyenneté israélienne. Et ce sont des années de coexistence qui ont été détruites en quelques jours.
Gwendoline, quelle réaction dans la classe politique face à ces émeutes? Benjamin Netanyahou notamment a réagi.
Dans ces villes du Nord, beaucoup de citoyens lui attribuent une responsabilité dans les événements, de s'être longtemps désintéressé de la communauté arabe israélienne. « La police ne vient jamais ici quand on l'appelle », disait un jeune habitant arabe hier soir. Et maintenant qu'il y a un risque pour les juifs, ils sont déployés par dizaines.
Rien ne justifie le lynchage d'arabes par des juifs. Et rien ne justifie le lynchage de juifs par des arabes. Nous ne pouvons pas accepter cela. Aux citoyens israéliens, je dis, cela ne m'intéresse pas que votre sang boue. Vous ne pouvez pas faire la loi. Vous ne pouvez pas prendre un simple citoyen arabe et le lyncher.
Alors Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, estime que ce n'est pas tolérable, que l'ordre sera restauré. Il s'est rendu à Lod, une des villes les plus touchées par ces violences communautaires, et il s'est adressé aux Juifs et aux Arabes israéliens.
Gwendoline de Bono en Israël pour Europe 1. Israël, où un enfant de 6 ans a été tué par une roquette la nuit dernière, ce qui porte à 7 le nombre de morts sur place. À Gaza, les raids israéliens ont fait 67 victimes, dont 17 enfants. Washington, qui a de nouveau bloqué une résolution à l'ONU hier, a envoyé sur place un émissaire.
Les conséquences de ce lynchage en direct à la télévision. Le symbole, bien sûr, mais pas seulement. On en parle avec Vincent Hervouet, son regard international, juste après ce journal.
Le gouvernement apporte des précisions supplémentaires sur la réouverture des terrasses mercredi prochain. Finalement, la jauge fixée à la moitié de la capacité d'accueil ne concernera pas tous les cafés et les restaurants. Clément Le Saffre, les établissements qui ont moins de 10 tables en extérieur auront en fait plusieurs options.
Oui, ils pourront, s'ils le souhaitent, ouvrir l'intégralité de leur terrasse, mais en installant des séparations entre chaque table. Alors, ça peut être une vitre en plexiglas, une plante, un paravent ou un simple panneau en bois. Une mesure bien accueillie par Nathan Hélot, restaurateur à Paris.
Nous, on a fait en sorte d'avoir un maximum de tables en ayant une distance qui soit réglementaire. Si demain, la demande client est importante et que, avec 50% de notre taux d'occupation sur la terrasse, on ne peut pas répondre à cette demande, bien sûr qu'on va réfléchir à cet assouplissement.
Mais tout le monde n'est pas aussi enthousiaste. Marie-Pierre Bouvier, restauratrice dans la Drôme, s'en tiendra, elle, à la jauge de 50%.
C'est-à-dire qu'on doit réouvrir dans 8 jours. Il va falloir trouver d'ici 8 jours trouver du plexiglas, si on veut mettre du plexi, trouver du personnel, quelqu'un pour nous l'installer. Alors, on va bien essayer de le faire, mais nous, on n'est pas bricoleurs, on est restaurateurs. Donc voilà, c'est un surcoût supplémentaire.
Et c'est pour cette raison que Bercy a préféré laisser le choix aux petits restaurateurs, sachant que l'option d'une ouverture totale est donc destinée aux petites terrasses et aux extensions sur la rue autorisées par certaines villes.
Autre précision pour ces réouvertures, menu sans contact à privilégier, port du masque jusqu'à l'arrivée du premier plat et pour le paiement.
C'est un rendez-vous qui a été imaginé en lieu et place du Salon de l'Agriculture. La semaine de l'agriculture débute aujourd'hui, l'occasion en ce week-end de l'Ascension de visiter des exploitations ou de faire le plein de produits locaux.
Oui, de nombreux agriculteurs ouvrent en effet désormais leurs fermes aux consommateurs. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour.
On va s'intéresser avec vous ce matin à ces nouvelles pratiques mises en place par les exploitants pour assurer leur pérennité. Ce mouvement d'ouverture, il a vraiment été renforcé par la pandémie.
Eh bien oui, je vais vous donner un chiffre qui illustre très bien cette situation. C'est le nombre de drives agricoles. C'est le même principe que pour les supermarchés, mais à la ferme. Avant la crise, le réseau Bienvenue à la ferme comptait 45 drives. Aujourd'hui, il y en a 150 sur toute la France, avec un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3,5 sur les 12 derniers mois. La vente directe dans les boutiques des fermes a aussi très bien marché. Plus 10, voire plus 15% de clients réguliers, nous disent les chambres d'agriculture. Et ce qui est intéressant, c'est que le prix moyen du panier a été multiplié par 2. Ça veut dire que l'achat à la ferme est devenu une source principale d'approvisionnement pour certains consommateurs.
Et la diversification pour les agriculteurs, elle passe aussi, Maud, par de nouvelles offres de services aux consommateurs.
Oui, c'est le cas par exemple de Régis Streil. Lui et sa femme sont éleveurs en Moselle. L'an dernier, leur ferme est devenue un point de retrait de colis volumineux. L'idée a été lancée par des agriculteurs il y a 2 ans. Ça s'appelle Agricolis. Cette nouvelle activité s'est envolée pendant le confinement. Le couple a multiplié par 2 ses revenus.
On est passé de entre 60 et 80 colis semaine à 160 colis semaine. Au niveau du magasin, premier confinement, on a doublé notre chiffre d'affaires parce que les gens nous ont fait confiance et sont revenus vers les producteurs. Donc entre guillemets, c'est malheureux à dire, mais pour nous le coronavirus c'était un plus.
Et au niveau national, Agricolis est passé de 7000 colis en 2019 à 20000 cette année.
Mais ça veut dire que sans diversification, point de salut aujourd'hui pour les agriculteurs ?
Alors ça soulève évidemment la question des bas revenus, ça c'est complètement intégré par les nouvelles générations. Un agriculteur sur 2 qui s'installe aujourd'hui a un projet de diversification et ça a du bon, nous dit Jean-Marie Lenfant de la Chambre d'agriculture.
L'avantage de la diversification, c'est que ça nous met, nous agriculteurs, producteurs, dans un mode projet. Un mode très positif de réfléchir à travailler des nouvelles productions et à les commercialiser soi-même. Face à une certaine morosité du monde agricole, ça nous rapproche et ça nous permet d'avoir un échange aussi avec les consommateurs, soit ceux qui viennent à la ferme, soit sur les marchés. Ça, c'est le côté plutôt vert à moitié plein.
Et ce vert à moitié plein, les jeunes semblent le voir également, puisque les formations agricoles n'ont jamais eu autant de succès. Le nombre d'inscriptions en apprentissage agricole a augmenté de 25% cette année.
Le monde de l'agriculture qui change, on vous le racontera tout au long de cette semaine sur Europe 1, dès ce soir avec Julien Bugier et demain matin, édition spéciale du 5-7 autour de Sébastien Krebs dans une exploitation laitière en Seine-et-Marne.
7h09 sur Europe 1, l'auteur d'un double homicide toujours recherché dans les Cévennes.
Oui, autour du village des Plantiers où 300 gendarmes sont mobilisés avec d'importants moyens, hélicoptères, chiens pisteurs, caméras thermiques. Il faut dire que les derniers éléments dévoyés sur le fugitif ont de quoi inquiéter. Les précisions dans le Gard, Stéphane Frangy.
Le profil du fugitif se précise, forcé d'abandonner son rêve d'intégrer l'unité des tireurs d'élite de l'armée. Il fait l'acquisition légalement d'un fusil de sniper, fusil qu'il aurait emporté dans sa cavale, redoute le procureur Éric Morel.
Si c'est celle que l'on pense, une arme d'une particulière dangerosité,
qui a une portée de tir d'environ 300 mètres et qui est particulièrement dévastatrice et qui peut être particulièrement précise si elle est munie des appareils de visée qui lui correspondent. Les perquisitions ont permis de mettre en évidence qu'il avait des récriminations contre diverses personnes, pas simplement d'ailleurs des personnes du village, mais d'autres aussi, y compris des institutionnels.
Procureur de la République de Nîmes qui profite de sa conférence de presse pour adresser un message directement à l'homme en fuite.
Le seul message, bien entendu, que je peux lui adresser, c'est de revenir à la raison, de déposer les armes et de venir s'expliquer dans le cadre d'une reddition pacifique.
Le village du Plantier reste sous protection militaire. Une cellule psychologique est ouverte sur place pour les habitants et le maire redoute les jours d'après où les familles du tireur et des victimes pourraient être amenées à cohabiter. Saint-Jean-du-Gard, Stéphane Frangier-Europe.
C'est une épreuve qu'une femme sur 10 a déjà vécue et qui pourtant, encore aujourd'hui, ne fait l'objet d'aucune prise en charge psychologique. Face à ce déficit d'accompagnement, des femmes victimes de fausses couches se mobilisent.
D'autant que la Nouvelle-Zélande vient de valider la création d'un congé de 3 jours après une fausse couche. Un pas de plus pour une parole qui se libère. Pour Europe 1, Virginie Riva.
Michelle Obama a évoqué sa fausse couche dans ses mémoires. Après elle, Meghan Markle dans une interview au New York Times en novembre dernier. Mais le sujet reste encore largement tabou pour la majorité des femmes en France, notamment. C'est un épisode très douloureux, dur à raconter, souvent passé sous silence face à ses employeurs. Mathilde Lemel a vécu 4 fausses couches en 2 ans avant d'avoir sa fille. Elle a depuis créé un compte Instagram, mais presque rien pour libérer la parole.
Je pleurais tout le temps, matin, midi, soir, la nuit. J'ai demandé au bout de la 3e, si je pouvais avoir un suivi psy. On m'en a jamais proposé, en fait, à aucun moment. Et quand on me l'a proposé, le psy que j'ai rencontré m'a dit que finalement, il s'occupait que des personnes dont la grossesse s'arrêtait après 22 semaines. Après, d'un point de vue de l'entourage, le discours est plutôt de dire c'est pas grave, il y en aura un autre, et du coup, de minimiser. Et en fait, il reste aucune place pour vivre vraiment son deuil.
En France, il est possible de bénéficier d'un arrêt maladie, mais un congé spécifique comme en Nouvelle-Zélande n'est pas à l'étude. L'entourage d'Adrien Taquet, secrétaire d'État aux familles, a conscience qu'il faut lever le tabou, mais en même temps qu'il faut préserver l'intimité de celles qui ne voudraient pas en parler à leur employeur.
Le Paris Saint-Germain a pris rendez-vous pour mercredi prochain et la finale de la Coupe de France.
Les Parisiens qualifiés hier soir contre Montpellier de partout, score final, qualification arrachée au tir au but. Julien Froment, vous avez suivi ce match pour Europe 1, moins que le scénario, c'est la performance de Kylian Mbappé qui doit être soulignée.
Oui, clairement, le Paris Saint-Germain n'offre pas le même visage avec ou sans Kylian Mbappé. Hier soir, sur la pelouse du stade de la Mosson, on a vu que lui, le numéro 7 de retour de blessure, a étalé toute sa classe éparpillant la défense montpelliéraine aux 4 coins du terrain. Remplacé à 8 minutes de la fin du match, il a assisté fataliste à l'égalisation de Montpellier, mais a célébré chaque tir au but réussi par ses coéquipiers, comme si c'était lui qui les tirait. Un Mbappé heureux chez nos confrères d'Eurosport.
On est très content d'aller en finale. Voilà, c'est vrai qu'on voulait aller au stade défendre notre titre et c'est ce qu'on a fait, même si je pense qu'on aurait dû y aller sans cette séance de tir au but, mais voilà, on prend ce qu'on a et on est parti chercher cette qualification. Stressant surtout quand on tire pas, mais j'étais très content parce que voilà, les coéquipiers, ils ont super bien tiré, ils ont eu des gestes forts. Et voilà, ils nous ont envoyé en finale.
Avec ce doublé, Kylian Mbappé en est à 39 buts, toutes compétitions confondues. Il égale son record sur une saison. S'il ne s'est pas encore prononcé sur son avenir personnel, il compte bien peser de tout son poids sur la destinée du Paris Saint-Germain dans ce sprint final.
Le PSG qui affrontera soit Monaco, soit Rumilly-Vallière, club de 4e division. Match ce soir à partir de 21h15. Enfin, un peu d'évasion. On va prendre le large, Mathieu, à l'écoute du seul bruit des mouettes et des vagues. Car à partir d'aujourd'hui, la traversée entre le continent et Belle-Île-en-Mer peut aussi se faire en voilier plutôt qu'en ferry. Charles Guyard a assisté hier au dernier test.
Les conditions de mer sont légèrement agitées, le vent est assez instable.
Au micro et à la barre, Léon, skipper du Sanoa, un grand voilier qui à partir d'aujourd'hui propose 2 rotations quotidiennes entre Quiberon et Belle-Île, une cadence qui passera même à 3 par jour en juillet et en août.
Donc pour les consignes de sécurité, on vous demande de pas trop vous pencher devant. Merci.
Pour cette ultime sortie test, ils étaient une douzaine avec leur vélo à revenir de la plus grande des îles bretonnes, parmi eux Sylvie et Didier.
C'est tout à fait inespéré parce que mon rêve c'était d'aller en catamaran.
J'ai le plaisir d'être sans bruit. C'est aussi ça qui fait le charme.
De fait, après la sortie du port, le moteur est coupé, on n'entend plus que l'océan. Et on peut même participer aux manœuvres à bord. Calme, convivialité et écologie, c'est sur ces critères que la société Ilien entend attirer les candidats à la traversée d'une durée d'1h30 contre 45 minutes pour la compagnie historique. Plus que de la concurrence, Léon y voit d'abord une alternative à Océane.
Je pense qu'on est plutôt complémentaires parce que eux, c'est vraiment un service public. Les jours où il y a vraiment trop de vent, les gens pourront traverser avec la compagnie Océane.
Pas de quoi en effet menacer l'offre des ferries pouvant transporter jusqu'à 450 passagers et leurs véhicules quand le Sanoa ne dispose que de 69 places assises.
En espérant qu'on va avoir bientôt sur nos lignes.
Qui bon, Charles Guyard, Europe 1.
À très bientôt sur les lignes, hein, Mathieu.
J'avais pas du tout envie de couper les mouettes. Là. Ça fait du bien, ça fait du bien. Alors vous savez quoi, il y a ceux qui ont l'air qui ont le pied marin, je cherchais l'expression, puis ceux qui sont plus rassurés sur le canal du Midi. À 7h30, on vous embarque justement en bateau pour la réouverture du canal du Midi, ce parfum de week-end de l'Ascension. Certains vont en profiter. Merci Marion Calais, c'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil. Entretien avec Sylvie Lancrenon à 7h40, photographe. Elle a eu les plus grands dans son objectif, Depardieu, Béart, Johnny, Mylène Farmer, Isabelle Adjani. La liste est longue. Sylvie Lancrenon, mon invité dans le tête-à-tête Europe Matin tout à l'heure. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré, juste avant le regard international de Vincent Hervouet. Vincent ?
Oui.
On va votre regard international dans un instant.
Ah, désolé Mathieu, je suis confus. Il n'y a pas que la guerre entre Israël et Gaza qui s'est réveillée, même si moi je suis endormi. Il y a aussi la haine entre juifs et arabes israéliens, et ça c'est beaucoup plus dangereux.
Et on va revenir sur les images de ce lynchage en direct à la télévision. Vincent Hervouet, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est rare, les experts de Bruxelles prédisent cette année à la France une croissance plus forte que ce que prévoit le gouvernement français lui-même.
Oui, et si l'on en croit ces prévisions économiques optimistes, la France sera, après l'Espagne, le pays qui enregistrera la plus forte croissance de la zone euro cette année, 5,7%. Le gouvernement plus prudent table, lui, sur un rythme de 5%, on n'ose pas dire seulement. La différence provient en fait du rythme auquel est dépensé l'argent du plan de relance européen. Si le rebond s'annonce plus fort en France que dans les autres pays, c'est, diront les mauvaises langues, parce que nous sommes plus forts et plus rapides que les autres quand il s'agit de dépenser de l'argent public.
Vous êtes taquin, Nicolas Barré. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On va se réjouir. Le rebond de l'économie arrive et il prend forme sur l'ensemble du continent européen.
Oui, alors on voit là le double effet des mesures de relance et de la vaccination. Dans le détail, il est intéressant de noter que Bruxelles prévoit 4,3% de croissance pour la zone euro en intégrant seulement 140 milliards d'euros d'investissements financés par l'Europe sur un plan de relance total, vous en souvenez, de 750 milliards. Ce qui veut dire que nous en aurons encore sous le pied, si je puis dire, pour soutenir l'activité l'an prochain. Les experts de Bruxelles prévoient d'ailleurs une croissance un peu plus forte l'année prochaine. Et puis, autre élément notable, Bruxelles estime qu'une injection de 1 point de PIB d'argent public dirigé vers l'investissement produit 1,2 point de croissance. La relance produit un effet d'entraînement.
Le point noir, ça reste l'emploi.
Oui, alors, c'est intéressant. Il y a un décalage d'un an, en gros, entre l'économie et le social, si vous voulez. En gros, la zone euro aura retrouvé début 2022 son niveau de production de richesse d'avant le Covid. Mais il faudra attendre un an de plus pour revenir au niveau de chômage de 2019. On peut voir dans ce décalage d'un an le reflet des rigidités du marché du travail. Les États-Unis et le Royaume-Uni, plus flexibles par exemple, retrouveront plus vite le niveau d'emploi d'avant la crise. Ce sont des économies qui ont plus chuté que nous, car les amortisseurs sociaux sont moins puissants, mais qui rebondissent plus haut. Les États-Unis prévoient 7% de croissance cette année, le Royaume-Uni 7,25%. Des différences qui découlent de choix de société distincts et qui montrent au passage que les pays les plus protecteurs sur le plan social ne sont pas forcément ceux qui favorisent le plus les créations d'emplois.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, cet horizon qui s'éclaircit, on y revient ce matin, le plan de relance européen qui nous profitera en France. Correspondance à Bruxelles avec Isabelle Horry dans le journal de 8h. Merci Nicolas. 7h19 sur Europe 1, le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Le réveil du conflit israélo-palestinien, convocation demain du Conseil de sécurité, troisième réunion en une semaine.
Oui, c'est le jour sans fin qui recommence, la pluie de roquettes sur les civils et le Hamas qui fanfaronne, les bombardements de Gaza mieux ciblés et le gouvernement israélien qui plastronne, les morts, les blessés, le monde alentour au balcon. Le Conseil de sécurité se réunit en urgence et en vain. Le renvoi dos à dos, spécialité européenne, la rengaine haineuse, spécialité turque. Tiens, revoilà le quartet pour le Proche-Orient avec sa feuille de route toute fanée. Il manquait un envoyé spécial américain, il est en route. On attendait la Maison-Blanche. Hier, à 22h28, Joe Biden a dit « Israël a le droit de se défendre ». L'Amérique aux côtés d'Israël, quoi qu'il arrive et quoi qu'en pense son président. Bref, on connaît déjà l'issue de ce nouveau round israélo-palestinien.
C'est-à-dire ?
Après l'escalade, les palabres, après le cessez-le-feu, le retour au statu quo, les généraux israéliens parlent de tondre le gazon quand il s'agit de taper sur les dirigeants de Gaza. Ça fait 7 ans qu'ils n'avaient pas passé la tondeuse. Sauf qu'il y a du nouveau, du jamais vu, de l'inoubliable. Hier soir, les Israéliens, juifs et arabes, qui regardaient la télé, ont assisté à un lynchage en direct. Un arabe passé à tabac par des manifestants près de Tel Aviv. Émotion des familles qui ont assisté chez eux à la scène impuissante. Et à 25 km de là, dans les terres, il y a Lod, décrété en état d'urgence. Avant-hier, l'émeute a duré des heures. Des arabes israéliens ont vengé la mort d'un des leurs en mettant le feu à des voitures, des magasins, Trois synagogues, ce n'est pas la guerre civile, mais un défi à l'État. Et cette profanation, la synagogue, eh bien c'est la réponse aux scènes de chaos à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, quand les gardes-frontières ont fait sortir de force les jeunes Palestiniens. L'image a fait le tour du monde arabe.
Pourquoi est-ce que c'est grave ?
Il y a déjà eu des manifs, des révoltes arabes, des montées de tensions, mais le lynchage en direct, le pogrom à l'Aude, ça c'est une première absolue. Ces images mettent à vif la ligne de démarcation qui passe au sein même d'Israël. Aujourd'hui, c'est l'ascension pour les Arabes chrétiens et la fin du Ramadan pour les musulmans. Demain, l'anniversaire de la création d'Israël. Ici comme là-bas, on est entré en zone dangereuse.
Même du côté du calendrier, effectivement. Vincent Hervouet, le regard international. Merci beaucoup, Vincent. Il est 7h21. Dans un tout petit instant, l'édito sport, Virginie Fulpin. Et juste après, notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern.
Oui, c'est pas une sinécure, Mathieu. D'où vient cette expression ?
À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
À 7h24, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour, Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Aymeric Laporte devrait jouer l'Euro avec l'Espagne dans un mois. Le défenseur de Manchester City a été naturalisé espagnol mardi. Est-ce que c'est choquant de voir un joueur français changer de nationalité pour intégrer une autre sélection ? Pour vous, c'est difficile de le blâmer, ça n'en fait pas un traître à la France ?
Au départ, je me suis dit que ça valait bien la peine de déclarer son amour aux Bleus à de si nombreuses reprises, si c'était pour retourner sa veste à la première occasion, tourner le dos à l'équipe de France et choisir de représenter l'Espagne. On a l'habitude d'entendre les footballeurs vanter les mérites de leur club de cœur et mettre ce cœur sur un autre club quand un contrat plus intéressant se présente. Mais avec les équipes nationales, reconnaissons-le, c'est un peu plus difficile à avaler. Alors quoi ? Aymeric Laporte ne serait donc qu'un traître à la nation, un opportuniste prêt à jouer pour n'importe quelle sélection ? On va peut-être se calmer. Son choix reste un choix sportif. Ce n'est pas un soldat qui déserte pour passer à l'ennemi. Aymeric Laporte a joué avec les Bleus en sélection de jeunes, oui. Il a ensuite espéré faire partie de l'équipe de France A, il l'a dit. Il l'a même écrit à Didier Deschamps pour le convaincre, c'était son rêve. Mais il n'a jamais joué une seule seconde avec les Bleus. Donc au bout d'un moment, à presque 27 ans, il a le droit d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Ça n'est pas une trahison, c'est du pragmatisme. Puisque l'équipe de France lui est fermée, s'il veut disputer des compétitions internationales comme l'Euro ou la Coupe du Monde, autant aller voir ailleurs.
En plus, Aymeric Laporte a été formé en Espagne.
S'il avait bénéficié de la formation française pour ensuite se retrouver à renforcer les rangs des adversaires, je comprendrais les critiques. Mais ça n'est pas le cas. Aymeric Laporte est né à Agen, d'accord, mais c'est à l'Athletic Bilbao qu'il a été formé. Il est arrivé au club basque dès ses 15 ans. C'est là qu'il a fait ses gammes, qu'il a découvert le haut niveau, qu'il a progressé. Il y est resté quasiment 10 ans jusqu'à son transfert à Manchester City en 2018. Donc ça me semble difficile de le traiter de déserteur aujourd'hui. L'Espagne, c'est son deuxième pays. Si la France ne veut pas de lui dans son équipe, c'est une bonne nouvelle qu'il puisse avoir sa chance ailleurs. En fait, nous, en tant que Français, on voit les Bleus comme le centre du monde, et c'est bien normal. C'est notre équipe, elle représente aussi notre fierté nationale, et quand on voit un joueur talentueux s'expatrier, ça nous chagrine, on réagit en patriote blessé. Je crois qu'il faut juste remettre les choses à leur place. Aymeric Laporte est footballeur et il a envie de jouer au foot. L'Espagne lui en donne la possibilité, pas la France. Bah que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport avec vous tous les matins à 7h20. Par ailleurs, Virginie, je vous garde avec nous. Cette initiative de l'Ajax Amsterdam, le club historique champion des Pays-Bas 2021, pour remercier ses supporters, abonnés mais privés de stade cette année, eh bien le club a sacrifié son trophée. Une coupe en étain de 2,750 kg transformée en 42 000 petites étoiles de 3,45 g. À défaut d'avoir pu soutenir leur équipe, vibrer avec elle, compensation pour ses supporters de l'Ajax, ils auront chez eux une part de ce trophée. Petite étoile donc, de quelques grammes, le club a mis une vidéo en ligne pour expliquer tout ça. Très bon réveil à tous, 7h27 sur Europe 1, l'heure de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On pourrait croire que venir tous les matins dans les studios d'Europe 1, vous raconter les origines d'une expression est une chose aisée, qui se fait de façon légère, naturelle, facile. Eh bien non, ce n'est pas une sinécure. Alors, plutôt que de continuer à me plaindre, je vais vous raconter le pourquoi de cette formule, je crois que ça sera plus intéressant.
Alors quand on dit ce n'est pas une sinécure, ça signifie c'est du travail, c'est du boulot. On pourrait dire aussi ce n'est pas de tout repos. Mais alors d'où vient cette sinécure ?
Eh bien ça vient du Moyen-Âge et plus particulièrement du latin. Beneficium sinecura. Pas facile à replacer dans la conversation, je vous le confirme. Mais ça signifie retirer un bénéfice ecclésiastique sans travail. En fait, le clergé avait pour coutume d'allouer certaines sommes à des personnalités religieuses pour qu'elles procèdent à des recherches intellectuelles sans avoir à se soucier d'inquiétudes bassement matérielles ni même à participer aux offices. Forcément, cet argent crée des tensions et des jalousies. On a rapidement caricaturé cette démarche en criant à la paresse et quand on se plaignait de trop travailler, on critiquait cette pratique en disant « ce n'est pas une sinécure ». Dans le même ordre d'idées, en Allemagne aujourd'hui, on dit « ce n'est pas un lécher de sucre ». En Angleterre, « it's not a bed of roses », c'est pas un lit de rose. En aux États-Unis, « it's not a picnic », ce n'est pas un pique-nique. Oh, ma préférée, je vais vous dire, c'est l'expression espagnole. « No es moca de pavo », vous comprenez, c'est pas de la morve de dindon. En matière d'expression populaire, l'imagination et la poésie n'ont pas de limite. Peut-être que même parfois, il en faudrait.
Moi, j'aime bien le lécher de sucre. Je trouve ça très mignon. On vous retrouve à 16h tout à l'heure avec un sucre dans mon thé, s'il vous plaît.
Oui, on réunit Nicolas Copernic, l'homme qui a compris que la Terre tournait autour du Soleil, Georges Brassens, dont on célèbre les 100 ans de la naissance, et une star de l'édition Guillaume Musso. Leur point commun, un professeur a changé leur destinée.
À tout à l'heure, 16h.
À 7h29, nous retrouvons Laurent Cabrol. C'est l'heure de la météo.
Et avec la Terre qui tourne autour du Soleil, effectivement, le Soleil, on ne voit pas beaucoup sur Terre. En ce moment, c'est vraiment une période un petit peu difficile, il faut bien le dire. Et nous allons, en cherchant un petit peu loin, on a du mal quand même à trouver le retour de l'anticyclone. Hein. Il n'est pas là, il n'a pas envie de venir nous retrouver. Je ne vais pas vous fixer de date, chers amis, mais enfin, on n'est pas encore dans le grand, grand, grand beau temps. Alors aujourd'hui, eh bien, pour certains d'entre vous, ce sera de la pluie ce matin, comme je disais tout à l'heure. Hein. Plutôt ce matin sur le nord, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté et sur les Alpes du Nord. Plutôt cet après-midi sur l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Pays Basque et le littoral de la Manche. Et puis des orages, peut-être même des orages assez violents, on ne sait jamais, dans la vallée de la Loire, dans la Bourgogne, en Auvergne, dans le centre. La région parisienne sera touchée peut-être par des orages aussi, avec des averses, avec des vents autour de 50 km/h lorsque les averses éclatent. Poitou-Charentes, Picardie et Bassin-Méditerranéen, des éclaircies, mais des ondées un petit peu plus rares. Et puis j'en termine avec le bassin méditerranéen où il fera beau et les températures entre 16 et 20 degrés.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Bonjour, Lénaïc Monnier.
Bonjour, Mathieu. Bonjour à tous.
Pardon, madame, pour le jingle. Vous êtes sur Europe 1, un nouveau journal. Il est 7h30.
Je crois qu'on a tous besoin de s'évader, être au grand air. Et puis, on a prévu le short, la crème solaire. Il faudra que le temps soit avec nous.
La crème solaire, ce n'est pas certain, mais ce bol d'air va faire du bien. Enfin, 4 jours pour en profiter, direction le canal du Midi. Pendant ce temps, il faut continuer à vacciner à tour de bras. Des renforts vont encore arriver, des puéricultrices ou encore des kinés. Et puis un jean made in France et surtout pas cher, c'est ce qu'on vous fera découvrir à la fin de ce journal.
Et juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Sylvie Lancrenon, photographe de star dans le tête-à-tête Europe Matin, ça c'est à 7h40. L'édito politique de Nicolas Bétou.
Benjamin Griveaux a démissionné de l'Assemblée nationale. Il quitte la politique, à moins que ce soit la politique qui l'a quitté.
Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit Salman Alerfi, ambassadeur, chef de la mission Palestine en France. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous êtes peut-être déjà sur la route en ce long week-end de l'Ascension, le tout premier bol d'air avec ses 4 jours de liberté retrouvée. Malgré une météo plutôt maussade, le secteur du tourisme se frotte les mains. Les gîtes, les campings, les hôtels vont faire le plein. Les bateaux aussi, comme ceux du canal du Midi qui rouvrent aujourd'hui. Benjamin Peter s'est rendu dans les roues.
À l'écluse, là, vous vous arrêtez avant, il y a des petites aires pour descendre. Ouais.
Dernière consigne avant d'appareiller, ils sont 19 à embarquer sur 2 bateaux pour un enterrement de vie de garçon, ça promet, c'est Philippe qui a eu cette idée.
Vu qu'on savait pas qu'on a réservé, si les bars allaient être ouverts, les restos, etc. Là, l'idée, c'est de pouvoir aller le soir dans des coins un peu sauvages et au moins on n'embête personne autour.
Un peu plus loin, Nathalie et Babette chargent leurs affaires. Ces vacances entre amis, loin de la crise sanitaire, elles les attendaient avec impatience.
On en a tous un peu marre, on peut pas partir, on peut rien faire. Du coup, bah, il y a encore le couvre-feu jusqu'à 19h, mais ça posera pas de problème, on sera en intérieur.
On est 6, on est dans les clous.
Je crois qu'on a tous besoin de s'évader, être au grand air, et puis on a prévu le short, la crème solaire, il faudra que le temps soit avec nous.
Chez l'armateur Le Boat, Amandine Jiménez constate un véritable engouement pour le tourisme fluvial qui permet d'être au grand air et en petit comité.
Les gens, en fait, ils sont en totale autonomie, on fournit des piquets d'amarrage, et en fait, ils peuvent s'amarrer en pleine nature quand ils le souhaitent. Et c'est vraiment l'option idéale, justement, pour échapper à la foule. C'est une petite bulle et c'est vraiment une petite maison flottante, le temps de quelques jours.
Et pour ce premier jour, une trentaine de bateaux ont pris le départ depuis cette base après avoir été désinfectés plusieurs fois pour assurer la sécurité des clients. À Port-Cassafière, sur le canal du Midi, Benjamin Péter, Europe 1.
Et je vous le disais, il y aura du monde sur les routes aujourd'hui, mais également dans les gares. La SNCF attend 1 million de voyageurs sur ce long week-end.
Un week-end de l'ascension très attendu par les Français, mais un peu redouté par le gouvernement.
Oui, parce qu'il y a la crainte d'une baisse de la vaccination, alors qu'hier, 636 000 doses ont été injectées. Il faut garder le rythme. C'est pour cela que les kinés, les puéricultrices, les ambulanciers peuvent désormais piquer à leur tour dans les centres. Pierre Herbulot.
Participer à l'effort de guerre, c'était la demande d'un certain nombre de professionnels de santé sur la touche depuis le début de la campagne de vaccination, comme les kinés, Sébastien Guérard est le président de leur fédération.
Les kinésithérapeutes ont quand même d'assez bonnes connaissances anatomiques et on sait un petit peu ce qu'il y a sous la peau au niveau du deltoïde, donc on n'est pas infirmier, on sera jamais infirmier, c'est pas notre cœur de métier, hein. Mais pour autant, on se retrousse tous les manches et on va tous au combat pour vite sortir de cette impasse.
Les ambulanciers, les aides-soignants ou encore les puéricultrices arrivent aussi en renfort. De nouvelles recrues indispensables avant l'ouverture à tous de la vaccination en juin, se réjouit Florent Vallée. Il est directeur adjoint des opérations de la Croix-Rouge qui gère plusieurs centres de vaccination en France.
Il faut aussi prendre en compte que juillet-août sont traditionnellement des mois de vacances. On a des professionnels qui sont sur le pont depuis des mois et des mois. Qui pourront être relayés par d'autres personnes pour permettre de prendre des congés aussi et se reposer.
Un surplus de près de 500 000 nouveaux vaccinateurs potentiels. De quoi élargir aussi les plages d'horaires de vaccination dans les centres, voire en ouvrir davantage.
Les précisions de Pierre Herbulot ce matin pour Europe 1.
Il y aura de plus en plus de femmes à la tête des grandes entreprises.
L'Assemblée nationale a voté hier soir pour des quotas 30% de cadres dirigeantes dans les entreprises de plus de 1 000 salariés d'ici 2027. Et on passera à 40% en 2030. Un texte voté à l'unanimité à la grande joie de la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno.
Mesdames et messieurs les députés, Madame la ministre, je veux vous remercier toutes et tous chaleureusement pour ces débats nourris et grâce aux travaux de l'Assemblée emmenés par Marie-Pierre Rixain, nous avons fait un pas vers l'avenir économique et professionnel de ces femmes avec plus d'espoir et plus de confiance. Je vous dis combien je suis fière et honorée que nous nous soyons battus pour les femmes de notre pays de cette manière, parce que je pense que nous nous souviendrons de ce moment. Merci à toutes et à tous.
Sous les applaudissements de l'Assemblée nationale, Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes.
La chute du roi du galop, le jockey de l'année 2020, le français Pierre-Charles Boudot, a été mis en examen pour viol.
Oui, c'est une cavalière qui l'accuse. Elle pense avoir été droguée avant d'être violée. Les explications pour Europe 1 de Johanna Chabas.
Les faits remonteraient à la nuit du 17 au 18 février à Cagnes-sur-Mer en marge d'une rencontre hippique. Une cavalière de 25 ans participe à une soirée où est présent Pierre-Charles Boudot. Selon l'avocate de la plaignante, elle a des flashs, des pertes de mémoire, des moments où son corps ne répond plus. Et d'après elle, il est fort probable qu'on lui ait fait boire ou inoculer des produits pour annihiler son consentement. Le jockey, lui, nie catégoriquement les faits, parle d'une relation parfaitement consentie. Un autre cavalier est mis en examen pour non-dénonciation de crime. Pierre-Charles Boudot était déjà visé par une première plainte pour viol. Les faits dateraient de 2015 à Deauville. La plaignante dit elle aussi avoir été droguée avant d'être violée. Le jockey, placé sous le statut de témoin assisté, réfute là encore cette version. Après la mise en examen de Pierre-Charles Boudot, la société France Gallo, en charge de l'organisation des courses hippiques, veut se porter partie civile pour avoir accès au dossier et protéger l'image de la filière.
Les précisions de Johanna Chabas pour Europe 1.
On parlait des aspirations. Aspiration des consommateurs dans le journal de 7h, aspiration à plus d'éthique dans la consommation alimentaire, mais pas que alimentaire, y compris vestimentaire. On va pouvoir trouver de plus en plus de jeans made in France.
Oui, c'est le groupe Mulier qui détient les anciennes Auchan ou encore Pimki qui va se relocaliser dans la métropole lilloise. Le but, commercialiser dès l'année prochaine des jeans et bon marché et de qualité. Maximilien Carlier.
Entre 40 et 60 euros le pantalon, avec une étiquette made in France, du jamais vu. Dans l'usine, une centaine de salariés seulement, peu de main d'œuvre, car oui, c'est plus cher que dans les pays émergents. Christian Kinen, chef de projet.
On a moins d'employés, moins de collaborateurs pour produire. On projette une usine qui sera une usine 4.0, avec un certain nombre de tâches qui seront semi-automatisées.
Et une production en fonction de la demande. On appelle ça le juste à temps. Cela limite les invendus, et donc on réduit l'empreinte environnementale. Des marchés co-responsables également, comme pour le délavage.
Mon jean pourrait être lavé, délavé, et on peut considérer qu'il a consommé à peu près 80 litres d'eau. Dans notre usine, demain, ce même jean ne représentera qu'une consommation de 2 litres d'eau.
Recours aussi à des technologies laser, ozone pour les tissus, bref, un site ultra moderne. Un projet salué par Olivier Ducatillon, c'est le président de l'Union des industriels du textile dans les Hauts-de-France.
Bravo, super ce que vous avez fait, et on ne peut qu'applaudir. Maintenant, continuons à être encore vertueux pour aller plus loin et utiliser des matières locales.
Car le coton, lui, est importé, il viendra d'Asie ou de Turquie. Ces jeans fabriqués dans le Nord vont représenter moins de 6% de la production totale des enseignes du groupe Mullier. Neuville-en-Ferrin, Maximilien Carlier, Europe 1.
D'un mot, le foot, le PSG a dû aller au tir au but pour écarter Montpellier et va en finale de la Coupe de France. L'autre demi se joue ce soir. Rumilly, le petit qui joue en National 2, affronte beaucoup plus gros, Monaco.
Et on va parler de Rumilly dans le journal de 8h tout à l'heure. Merci Léna Aigmonier, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'ambassadeur Salman El Erfi, chef de la mission Palestine en France, est l'invité de la matinale aujourd'hui. L'escalade de violence, ces images de lynchage d'un homme par des militants d'extrême droite, des images diffusées en direct à la télévision. L'escalade, je disais, hier matin, Sonia recevait l'ambassadeur d'Israël en France. Ce matin, Salman El Erfi à 8h15 sur Europe 1. Dans un instant, la photographe de star Sylvie Lancrenon, dans une biographie, elle se raconte et raconte ses séances avec des monuments français de la culture. C'est le tête-à-tête Europe Matin. Ce sera juste après la touche âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, vous pensiez avoir tout entendu niveau complotisme. Asseyez-vous, il y a du nouveau.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Écoutez, je ne sais pas comment ça va pour vous, mais moi je suis largué. J'aurais bien besoin d'un GPS info pour suivre les événements parce que ça va beaucoup trop vite. Je pensais avoir à peu près tout compris à l'actualité quand soudain, cet article du magazine américain Vice, je cite, « Des anti-masques prêts à se masquer pour se protéger des vaccinés. » Ah, même là, autre chose. Oui, vous avez bien entendu, des anti-masques prêts à se masquer pour se protéger des vaccinés. Ça va à une vitesse chez les complotistes. Ils sortent un nouveau modèle tous les mois. C'est plus vite que les iPhones. Convaincu sans preuve que les personnes vaccinées émettent des particules dangereuses aux effets dévastateurs causant tout un tas de dégâts comme l'infertilité, les fausses couches ou je sais pas, devenir fan des trois cafés gourmands, certains conspirationnistes ont cherché un moyen de s'en prémunir et l'idée qui en est sortie est brillante. Et si, attends, laisse-moi finir Michel, et si pour se protéger des vaccinés, on adoptait des attitudes protectrices ? Mais t'es malade Didier, mais t'as mal digéré un truc, on se bat contre la dictature sanitaire depuis des mois, on n'est pas des moutons merde, qu'est-ce qui t'arrive ? Attends, ça n'a rien à voir avec ce que font les autres, moi je te parle de porter un truc à usage unique qui couvrirait le nez et la bouche, et pour être sûr de ne pas être touché, de se tenir à distance des vaccinés. Ouais, tu veux dire des gestes barrières ? Oh, tout de suite les grands mots. Non, moi j'appellerais ça des attitudes protectrices. Ah ouais, ça va, tu m'as fait peur. Ouais, pendant deux secondes, j'ai cru que t'avais viré de bord. Ouais, ça va. Et voilà, un palier de plus de franchi dans la goraphisation du monde pour se protéger des vaccins, des anti-masques adoptent un comportement auquel ils s'opposaient jusqu'ici. On est dans du complot de complot, c'est fantastique, c'est Inception. Et ça pourrait donner naissance à un jeu super sympa.
Et nouveau, découvre vite le jeu des 7 familles complotistes. Wow. Sois le premier à compléter la famille et remporte la partie.
Ouais Fabrice, tiens voilà, la mère anti-Counter Linky, à moi. Alors, dans la famille complotiste, je voudrais la belle-sœur anti-vax.
J'ai. Yes. Alors à moi, dans la famille complotiste, je voudrais le père anti-masque. J'ai pas. Bah tu dis pas pioche ?
Ah bah non, ouais, ça existe pas, on joue cette famille complotiste. Et toi tu me dis anti-masque, c'est pas logique, on est pour.
Hein ?
Bah ouais, ah mais non, mais toi tu jouais avec les règles de l'an dernier. Non, regarde la nouvelle règle, c'est simple. Les masques avant on était contre, mais comme on est encore plus contre les vaccins que contre les masques, on est ok pour porter les masques qu'on voulait pas porter pour se protéger des vaccinés dont on veut pas. C'est pour ça qu'il y a plus de famille anti-masque dans les 7 familles complotistes.
Ah d'accord. Les 7 familles complotistes, un jeu aux règles encore plus difficiles à suivre que celle du Uno Extrême. Disque de Francis Lalanne vendu séparément. Pour votre santé, évitez de trop consulter Internet.
Incroyable, la touche âme, tous les matins. En plus, je sais pas où vous trouvez ces trucs-là. Moi, je veux des jingles comme le son. On l'a encore sous la main ? Ça monte en puissance comme ça.
Ah, ça, c'est toute la magie des années 80 réunie en un seul titre.
La touche âme, tous les matins, 7h40 sur Europe 1. Merci Bertrand, vraiment. Et à demain, à tout à l'heure, 10h, avec Philippe Vandel dans Culture Média.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h43. Sylvie Lancrenon, photographe de star ce matin sur Europe 1. Johnny Depardieu, Emmanuel Béart, Isabelle Adjani, Laetitia Casta, la liste est longue. Pour Paris Match, pour elle, pour les plus grands, elle a eu accès à ces monuments. Dans Ombre et Lumière, chez Albin Michel, le récit de ses séances photos et de sa vie, Parce qu'il faut savoir qu'elle a été amputée d'une jambe très jeune, à 18 ans. Son regard ce matin sur le corps humain, la photographe Sylvie Lancrenon est mon invitée.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Bonjour Sylvie Lancrenon.
Bonjour à vous.
Un récit, disais-je, un témoignage ce matin, une photographe, votre histoire personnelle, la perte d'une jambe à l'âge de 18 ans seulement. Si la photographie, c'est aussi l'expression d'un regard, votre travail à vous, c'est de porter un certain regard sur le corps.
C'est pas simplement sur le corps, c'est surtout, c'est sur l'ensemble d'une personne. C'est pas parce que je n'ai qu'une jambe que je veux photographier le corps. C'est parce que j'aime la beauté en elle-même, la beauté d'une personne et la beauté du corps va avec.
D'abord, si on va parler des stars, des plus grands que vous avez photographiés, il y a comme un paradoxe dans le livre. Vos débuts, c'est au pensionnat. C'est une autre ambiance quand même.
Oui, j'avais 14 ans et en fait, j'étais pas très studieuse et je commençais à photographier mes copines. Mais bon, c'était vraiment mes premières photos. C'était pas du tout étudié, mais j'avais déjà ce sentiment de la photo. J'ai appris à développer, à savoir ce que c'était que l'argentique, ce que c'était que la photo. Donc déjà, ça trottait dans ma tête.
D'ailleurs, aujourd'hui, vous restez une militante de l'argentique, si le mot militante est approprié. Vous n'êtes pas fan du numérique. Hein.
Je suis militante de l'argentique, oui, exactement. Je suis pas la grande fan, mais bon, je le fais quand même.
C'est une rencontre, comme souvent dans ce genre d'histoire, une rencontre qui va tout changer. Lorsque vous avez rencontré Claude Lelouch.
Oui, pour moi, ça a été la chance de ma vie, bien sûr. Je sortais de ma jambe, ce que ça peut représenter quand on doit apprendre à marcher, etc. J'ai tout de suite rencontré Lelouch qui m'a dit de venir faire un stage chez lui. Et donc j'y suis allée. La seule personne que je connaissais, c'était Claude Lelouch sur le plateau et aucun technicien, bien sûr, que des hommes. Mais enfin bon, ça a été le début d'une grande vie pour moi. Quand j'ai rencontré Lelouch, je lui ai montré des portraits d'enfants que je faisais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il m'a dit non, sois photographe de plateau, c'est un très beau métier pour une femme. Et donc, 3 mois après, j'y suis allée.
De votre carrière, on retient en particulier un nu. Emmanuel Béart, une séance pour le magazine Elle. Vous pouvez nous en parler?
C'était une photo qui n'était absolument pas prévue. C'était une photo qui a été prise à 5-6 heures du matin. Et Emmanuel ne m'avait absolument rien dit. Elle est rentrée dans l'eau comme ça. Elle a retiré son pareo. Il y a mon assistant Gérard. Vite, donne-moi l'appareil. Je vais faire une photo d'Emmanuel. Emmanuel, je ne sais pas si elle avait très envie. Moi, j'étais un peu intimidée. Je n'avais jamais fait de photo de nu. C'était un peu. Vous voyez, il y avait juste le clapotis de l'eau. C'était magique. Je me suis dit, ce sera une photo souvenir entre nous. En fait, j'ai fait très peu de photos là, à ce moment-là. J'ai fait 3-4 photos, c'est tout. Et en réalité, c'est devenu la une du L. Ouais.
Et vous décrivez la ruée dans les kiosques, les stocks épuisés en 2 jours, les hommes qui achetaient le spécial beauté du L.
Moi,
le monde.
Avant ça, il y a un truc qui me faisait marrer, c'est qu'à l'époque, le L sortait le lundi et j'avais eu un téléphone du directeur artistique du L qui m'avait dit. C'est très mauvais signe, il pleut dehors, à mon avis ça ne va pas marcher.
Emmanuel Béart, vous avez rencontré aussi, Sylvie Lancrenon, des monuments évidemment, Gérard Depardieu, Johnny Hallyday. Vous avez une rencontre préférée parmi toutes celles que vous citez? Quel souvenir parmi tout cela est-ce que vous gardez en priorité?
Pour moi, les bons souvenirs, c'est quand j'ai réussi à apprivoiser ces stars. Donc, il se crée une intimité. Donc, je pourrais. Oui, c'est sûr qu'avec Johnny, quand j'étais chez eux et que j'ai réussi à lui mettre la tête dans l'eau mouillée et qu'après, il me blaguait, c'est vrai que c'est des souvenirs merveilleux. C'est quand je l'ai vu se mouiller la tête parce qu'il n'avait aucune envie, il a plongé dans sa piscine et pour moi, ça. Je sais pas, j'avais l'impression de me l'être apprivoisé. Ils aiment pas beaucoup les photos. Il faut se dire, ils aiment pas du tout la photo, poser pour une photo. Donc il faut que ça aille très vite et c'est là où mon métier de photographe de plateau m'a beaucoup aidé.
Qu'est-ce qui se passe chez le sujet, justement, celui qui est photographié? Parce qu'il doit se dévoiler, il doit se confier, il doit vous faire confiance.
Il faut savoir voler les photos, voler l'intimité.
Ces femmes Que j'hésite à lister ainsi d'ailleurs, mais enfin quand même. Hein. Monica Bellucci, Eva Green, Sophie Marceau, Laetitia Casta, Mélanie Thierry. Je vous cite dans le livre. Pourquoi ai-je la tentation de les dépouiller de tout, ces femmes à la beauté si travaillée? Nulle femme ne peut vraiment leur ressembler, nul homme ne peut vraiment les posséder. Vous interrogez le corps, vous questionnez la féminité, la beauté aussi.
Bah, c'est vrai que là vous citez, bon, et encore, elles ne sont pas toutes citées parce que j'en ai photographié beaucoup, beaucoup. C'est magnifique, moi je trouve que c'est un petit peu comme un... C'est comme une sculpture, c'est comme une... Je sais pas, je trouve que c'est magique, c'est la chair, la position, la féminité, mais vraiment avec beaucoup de pudeur. J'aime la pudeur d'un corps, j'aime pas quelqu'un qui arrive et qui dit « allez, on va faire des photos, quelle horreur ». Ça, je suis incapable.
Votre jambe, ouais. Vous le dites, ça peut intriguer, ça vous le racontez dans le livre.
J'ai toujours fait pour tout cacher. Personne ne m'a posé la question. Ça m'est arrivé avec Laetitia Casta, oui, une fois. Elle a vraiment insisté, et puis j'ai fini par dire, bon, allez, voilà, je te le dis. Et je trouvais qu'elle avait quelque chose de bien. Je me suis dit, c'est une fille bien. Et moi, je marche à l'intuition. Pour moi, c'est trop important de raconter. C'est pas que ça me mette en infériorité, mais du coup, ça me déconcentre, voilà. Moi, je ne suis pas un sujet. Le sujet, c'est la personne que j'ai la chance de photographier en face de moi.
Alors, je ne sais pas comment les dire après vous avoir lu, mais j'y vais sans détour. Mmh. Vous dites votre dégoût de certains mots, le verbe amputer, le mot moignon, vous les mettez sur le même plan que des dénominations anciennes comme estropié.
Ouais, mais vous voyez, rien que de vous entendre, là, pour moi, j'ai voulu le mettre en écrit, parce que rien qu'à l'entendre, ça me... Prononcer ces mots oralement, pour moi, c'est un dégoût. Je déteste ces
mots. Je ne demande évidemment pas de les prononcer. Sylvie Lancrenon.
Au début, je dis j'ai un truc à la guibole, parce que ma jambe, je l'appelle ma guibole. Et après, je dis voilà, j'ai qu'une jambe.
À vous écouter, vous préférez qu'on vous chambre sur le sujet plutôt qu'on ait une forme de regard empathique.
Ah, ben bien sûr. Bien sûr. La plainte, c'est quelque chose d'épouvantable pour moi.
Il y a chez vous un coup de gueule aussi, et je voulais absolument qu'on en dise un mot ce matin, sur le sort réservé aux personnes en situation de handicap dont vous êtes. Le mobilier urbain, la civilité des citoyens, les places de parking hein, qu'on vous pique ou les soupirs parce que vous ne marchez pas assez vite dans les allées bondées des magasins. La loi, la volonté politique, ça c'est une chose, l'application de la loi, mais il y a aussi le regard des autres.
Hein. Oui, c'est vrai que j'ai des colères, je me débrouille toute seule, je me suis toujours évidemment débrouillée toute seule. Et j'adore ça, c'est mon indépendance. Mais quand je vois des gens qui ont deux bras, deux jambes, machin, qui piquent la carte d'handicapé, qui se garent à la place de gens qui ont un petit problème comme moi, ça me rend hystérique. À côté de chez moi, hein, là, je m'en remets pas, où on retire une place d'handicapé et qu'on met un porte-vélo et on met des vélos à la place des... Et en plus... Ils ont laissé le sigle handicapé en dessous, donc ça c'est le comble du comble quoi. C'est vraiment là ça me fait mais cracher par terre quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai des rancœurs et en fait j'aimerais le dire parce que je trouve que c'est honteux, même pas pour moi, c'est pour vis-à-vis de tous les handicapés quoi. Et pas un boudon qui est cassé parce qu'il a pris la carte de son oncle ou de sa grand-mère ou de sa sœur qui voilà. Ça, c'est vrai que pour moi, c'est un coup de gueule.
Oui, mais il fallait qu'on en dise un mot.
Mais je vous remercie beaucoup.
Ombre et lumière, c'est aux éditions Albin Michel. Sylvie Lancrenon, c'est moi qui vous remercie.
Merci.
Europe 1, Mathieu Béliard.
L'édito politique, Nicolas Bétou, dans quelques toutes petites secondes. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h54 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Benjamin Griveaux quitte la politique. Il a démissionné de son mandat de député.
Mandat qu'il avait retrouvé après avoir quitté le gouvernement et s'être retiré, si on peut dire, dans les conditions pitoyables que l'on sait, de la course à la mairie de Paris. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'avait jamais retrouvé sa place dans la majorité.
Sa place, vous voulez dire qu'il faisait partie du premier cercle autour d'Emmanuel Macron et qu'il n'y est jamais revenu ?
Oui, le premier cercle, ce petit groupe issu de la gauche très politisé, qui avait cru dès le début dans cette aventure incroyable, cette élection par effraction, comme le dit Emmanuel Macron lui-même en parlant de sa victoire à la présidentielle. Or, ce petit groupe n'existe plus vraiment. Et c'est un phénomène assez frappant. Il y aura demain, 4 ans, jour pour jour, qu'Emmanuel Macron franchissait en vainqueur les grilles de l'Élysée avec dans ses pas ceux qu'on avait alors appelés les Mormons. Une petite escouade de têtes bien faites et bien pleines, parmi lesquels Benjamin Griveaux, justement, Sibeth Ndiaye, Sylvain Faure, la plume du président, avec d'autres, comme Julien de Normandie, ils formaient le cœur du système, sous la houlette d'Alexis Kohler, devenu secrétaire général de l'Élysée, autrement dit, la véritable tour de contrôle du régime.
Oui, vous dites qu'ils formaient le cœur du système, ce n'est donc plus le cas ?
Non, beaucoup se sont éloignés, certains ont pris du champ, par exemple en direction du Parlement européen, d'autres ont carrément quitté la politique, comme Sibeth Ndiaye, ex-porte-parole du gouvernement, et justement Benjamin Griveaux. Ils ont rejoint la cohorte des déçus de la politique, ces dizaines de députés En Marche qui savent déjà qu'ils ne se représenteront pas ou qui sont passés dans le privé. Je pense à Brune Poirson, par exemple, l'ex-secrétaire d'État à l'écologie, qui a rejoint un groupe hôtelier après avoir été éjecté du gouvernement.
Bon, mais est-ce que ce n'est pas un phénomène inhabituel ? Est-ce que ce n'est pas tout simplement un effet de l'usure du pouvoir, Nicolas ?
Oui, vous avez raison, ça compte sûrement. Mais cette fois, même les proches parmi les proches ont du vague à l'âme. Tenez, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, un des intimes du président, il se plaint de ne plus être écouté comme avant par le chef de l'État. C'est ce que vient de raconter l'Opinion. Ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui se protège beaucoup, qui donne peu. C'est ce que disent en tout cas ceux qui ont cru à un moment être proches. Il se préserve et il décide seul, le plus souvent au dernier moment. Ah, évidemment, à la longue, les conseilleurs peuvent se sentir écartés. Reste que, pour le futur candidat à un second mandat, faire tourner son entourage et ceux qui contribueront à cette prochaine bataille, c'est peut-être aussi une façon indispensable de se renouveler.
Votre édito politique, c'est tous les matins à 7h50. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les jours, avant 8h, on retrouve Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Salman El Erfi, ambassadeur, chef de la mission Palestine en France. Et Julien Courbet voulait lui dire un mot.
Oui, mon cher Mathieu, bonjour. Bonjour à Laurent Cabrol, bonjour à Nicolas Bétou. Nous achèterons bien sûr l'Opinion pour l'interview de Richard Ferrand du côté d'Arcachon. Nous l'achèterons en kiosque. Eh bien oui, je reviens, car hier nous n'avons pas été en mesure de résoudre totalement le conflit qui oppose ses deux voisins, la Palestine et Israël. Rappelons que vous receviez l'ambassadeur israélien, vous avez été... Pardonnez-moi de le dire, un petit peu petite bite à Europe 1, ça aurait été audacieux de recevoir les deux à la fois. Hein, on se demande pourquoi vous ne l'avez pas fait, peut-être la peur du conflit. Bref, le conflit demeure, mais rappelons que la région était très performante, souvenez-vous, dans la lutte contre le Covid. Eh bien, pour mettre fin à cette escalade, il suffit d'appliquer les mêmes gestes barrières que vous avez tellement bien maîtrisés jusque-là. Une distanciation sociale d'1,50 m entre chaque belligérant, pas de contact physique. Pas de missiles, pas de roquettes, on gère tout par Skype, depuis chez soi, en pyjama.
Ah oui.
Comme vous savez si bien le faire, mon cher Mathieu, en garage. Vous avez respecté tout ça très efficacement l'année dernière, chers amis israéliens et palestiniens. Alors recommencez, vous verrez là encore, une vie plus paisible sera au rendez-vous et pas au rendez-vous,
évidemment.
Comme l'aurait fait, je ne vais pas dévoiler de nom à la rédaction.
Nicolas Canteloup, on vous retrouve à 8h45 pour la revue de presse, bien sûr. Salman El Erfi, invité de la matinale aujourd'hui, ambassadeur chef de la mission Palestine en France. Au micro de Sonia Mabrouk, ce sera à 8h15. Il est 7h59, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Et le soleil ne sera pas au rendez-vous, hein. c'est pas aujourd'hui. Bon, alors, nous allons avoir une journée...
Il va vous le faire payer à 8h45, vous le savez, savez, Laurent.
j'ai appris beaucoup, là. Alors, que dire ? On a le sourire, mais c'est vrai que, chers amis, vous ne l'avez beaucoup moins, et puis nous aussi, d'ailleurs, parce que c'est pas brillant. Bon, c'est une journée où nous aurons chacun à notre tour un brin de pluie, alors des pluies de variées. Pour certains, ce seront des orages, pour d'autres, des pluies continues, pour d'autres, des averses. Bref, les plus servies, si je puis dire, le Nord, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, ce matin, et cet après-midi, l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, le Pays Basque. Voilà, vous verrez là, dans ces contrées, des pluies assez fréquentes et même assez rapprochées. Sur des régions comme la région parisienne, l'Auvergne, le centre, ce sont plutôt des averses, la Bourgogne aussi, des averses avec quelques orages ici ou là. En fait, seul le bassin méditerranéen sera à l'abri du mauvais temps. Je veux simplement dire que si vous cherchez le soleil, eh bien, il faudra aller dans les jours qui viennent vers le bassin méditerranéen et vers le littoral atlantique. Vendredi, samedi, le littoral atlantique devrait être relativement dégagé, hein, sur la frange littorale, c'est-à-dire sur 100 km environ. Et puis, je parlerai aussi du retour du grand beau temps. Non, j'en parlerai pas. parce qu'il revient pas. Il revient pas.
Faux teasing.
Le grand beau temps ne revient pas encore.
Bon, il faudra patienter alors. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde Changer.